France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Chora Makarémi. J'ai lu Résistance affective, il m'a éclairée et m'a permis de penser autrement la politique, la mémoire et les liens que nous pouvons tisser entre nous. L'idée que nos douleurs, nos attachements, nos colères, nos sentiments finalement, souvent perçus comme totalement illégitimes dans l'espace public, peuvent devenir des formes de résistance, des forces collectives.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Aux politiques de cruauté répondent aujourd'hui des résistances affectives dans votre book club. Dans un essai aux implications intimes, éthiques, littéraires et philosophiques, la chercheuse Chora Makarémi observe la mutation d'affects comme le chagrin, le deuil ou la colère en puissance de soulèvement. Des gestes les plus modestes aux solidarités les plus construites, elle relève une véritable grammaire de combat dans laquelle les femmes, les sœurs, les amis, les mères tiennent une place fondamentale. Elle observe celles et ceux qui, combinant la mémoire, l'émotion et l'action, luttent pour redonner du souffle à la vie et visibiliser la réaction des corps à la souffrance d'autres corps. L'anthropologue au CNRS Chora Makarémi est notre invitée pour son livre qui paraît aux éditions La Découverte. À la fin de l'émission, on jouera comme toujours à chercher de la musique dans les livres et il y en a dans celui-là, une berceuse notamment. On est ensemble pour une heure, c'est bien. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Chora Makarémi.
Bonjour.
Votre livre Résistance affective a paru, je l'ai dit, aux éditions La Découverte dans la collection Cahiers Libres. Bienvenue dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir à ce micro. Ici, tout commence toujours par ce qu'on appelle un questionnaire lecture. On entend, voilà, inaugurer la conversation en discutant de la manière dont nos invités ont été en contact avec des livres. Vous leur racontez, entre autres choses, et vous l'avez déjà fait dans un film par exemple, votre enfance a été marquée par la manière dont votre vie intime a été percutée par le destin politique de l'Iran et l'emprisonnement et la mort de votre mère. Enfance marquée aussi par l'exil, c'est quelque chose dont vous parlez dans Résistance affective. Quelle place il y avait pour les livres dans cette enfance-là ?
Il y avait une grande place pour les livres. Moi, je n'ai pas appris à lire en persan, qui était ma langue maternelle avant que j'arrive en France à l'âge de 6 ans. Je suis directement passée au CP avec un prof primo-apprenant dans une classe où on était, il y avait un frère et une sœur kurde, deux frères ghanéens qui vivaient seuls parce que leurs parents travaillaient loin. Il y avait mon frère et moi, et on apprenait tous le français et à lire et à écrire ensemble. Et c'est comme ça que petit à petit le français est devenu ma langue première dans laquelle je pense, je rêve, je lis et les livres étaient vraiment, enfin je lisais beaucoup oui quand j'étais petite.
Et dans les 6 ans avant cet apprentissage-là, est-ce qu'il y avait de la place autrement pour les livres avant que vous ne sachiez lire ? Est-ce qu'on vous lisait des livres ? Est-ce qu'il y avait des livres dans les endroits où vous étiez ? Est-ce que vous avez des images qui se rapportent à cet objet-là ?
Absolument, oui. On me lisait beaucoup de livres et j'en ai retrouvé. Certains ont été gardés comme forme de relique de cette enfance. Quand je suis partie, un certain nombre des objets qui m'appartenaient ont été gardés par mes grands-parents qui m'ont élevée. Mais surtout, je sais. Il y avait une présence fantomatique des livres parce que j'ai travaillé dessus après sur cette question-là vraiment beaucoup plus comme chercheuse dans un ouvrage, un catalogue d'exposition qui s'appelle La Révolution par les livres, rue Ingrelob, qui a accompagné l'exposition de la photographe Anna Darabi au Bal il y a quelques années. Et chez moi, dans cette maison familiale où avaient habité mes parents avant l'arrestation de ma mère. Au moment de la révolution iranienne, il y avait une grande bibliothèque familiale et mon père avait mis en place cette bibliothèque avec un système de prêts, d'emprunts, etc. Donc en fait, il y avait des...
Mais ouvert aux autres.
tonnes et des tonnes de livres, voilà, ouverts à la famille, ouverts aux militants, ouverts aux amis, et donc dans cette idée d'auto-éducation, parce que justement les livres ont été si longtemps interdits sous le régime du Shah, qui était une dictature, et entre 60, et c'est c'est l'objet de cet ouvrage de Rue Ingrélab, c'est entre les années 77 et 82-3, il y a eu une ouverture de l'accès aux livres et une publication un peu pléthorique qui était comme une espèce de lâcher
d'explosion à la hauteur de la manière dont ça avait été interdit.
Voilà, éditorial sauvage, alors que à l'époque du Shah, sous la dictature, et très très vite ensuite, dès 81, les livres seront interdits à nouveau et circuleront sous la forme de jaquettes blanches, de samizdat, de livres interdits. Donc le fait même de lire des livres pour cette génération de révolutionnaires qui est celle de ma mère, de mon père, que j'ai beaucoup étudié, en fait, que j'ai essayé de comprendre, dont j'ai essayé de comprendre les subjectivités révolutionnaires. Pour elles et eux, le fait de lire des livres et de pas justement être dans la consommation, dans le spectacle, dans les chansons, le cinéma où on voyait des femmes et des hommes boire du whisky, être comme ça en jupe courte, qui était très en écart en réalité avec la réalité de la société iranienne de l'époque. Le fait de lire des livres, c'était une façon de se politiser, mais même des romans. Et donc il y avait cette bibliothèque familiale et très vite il est devenu très dangereux de posséder des livres, et donc la bibliothèque a été dissoute. Elle a été une partie des livres ont été, je l'ai su par la suite, hein, mais une partie des livres ont été emmurés dans une maison en construction, parce qu'il était dangereux, parce qu'en fait si on arrête une personne qui est en possession de certains livres, eh bien ça expose à la mort, ça expose à la prison, à l'emprisonnement, et la prison dans les années 80 en Iran sont des lieux de mort. Et tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ces livres-là, qui ont été détruits pour ne pas être pris en possession d'eux et donc exposés à la mort, parce qu'ils sont devenus rares, ils sont devenus chers et ils font l'objet de collections. Et certains de ces collectionneurs ne sont autres que les anciens bourreaux, devenu homme d'affaires. Donc en fait, il y a tout un fétichisme aujourd'hui et une valeur accordée à ces livres.
Ça a changé de camp.
Oui, et sans prendre la mesure du fait que s'ils sont rares, c'est parce qu'en fait, ils sont dangereux. Et s'ils sont dangereux, c'est parce que posséder un livre à un moment, c'était comme posséder une arme. Et donc, certains livres de notre bibliothèque familiale, de la bibliothèque familiale de mes parents, ont été emmurés. D'autres ont été cachés sous les pots de farine, sous les énormes bacs de farine de ma grand-mère et scellés. D'autres peuvent être enterrés dans le jardin. Certains ont été enterrés dans le jardin de Gachsaran, qui était pas à Shiraz, mais dans une autre ville. Et donc, je pense que mon enfance a été marquée par ces fantômes de livres qui n'étaient pas là, mais qui avaient été là.
Et alors, est-ce que vous avez la sensation, Shora Makarami, que lorsque vous entrez vous-même autonome dans la lecture, petite fille, et désormais en français, vous avez, de façon inconsciente, comme transmis ce rapport urgent, tout particulier, au livre? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui arrive jusqu'à vous? Parce que j'imagine que tout ce que vous nous dites là, c'est pas quelque chose que vous savez quand vous avez 6 ans.
Non, mais c'était une transmission très consciente de la part de mon père, donc qui était réfugié politique en France, à Limoges où on a grandi, et qui, à partir des années 90, je crois, s'est fait envoyer ce qu'il restait de sa bibliothèque par paquet de 5 livres. Hein, donc toutes les semaines, on recevait d'Iran des paquets de 5-10 livres et il a reconstitué. Et aujourd'hui, elle est très grande, sa bibliothèque. Et les samedis, il nous amenait chez Emmaüs. Il y avait un Emmaüs dans le centre-ville de Limoges. Et là, c'était open bar, c'est-à-dire que on avait le droit, et c'était la seule chose pour laquelle
c'était
il y avait
open bar.
On avait le droit d'acheter tous les livres qu'on voulait. On était très riches parce que les livres étaient à 1 euro, 1 franc, 3 francs. Et donc, on pouvait rester des heures et choisir tous les livres qu'on voulait. Et puis, il y avait bien sûr la bibliothèque municipale aussi.
Il y a quelque chose dans le texte que vous écrivez là et dans votre travail en général qui fait toujours signe en avançant à d'autres livres. Shora Makarami, vous n'écrivez pas seule. Et d'ailleurs, il n'y a pas que vers les livres que vous faites signe, mais le cinéma aussi, et puis éventuellement le souvenir laissé par une mélodie, et puis on y viendra, tout ce que la mémoire des corps dépose dans le corps des autres ou dans l'espace public. Mais ça veut dire qu'en vous lisant, on vous sent très lectrice. Alors bien sûr, vous êtes anthropologue, voilà, il y a aussi l'idée d'une scientifique que vous êtes au CNRS, mais si vous deviez dire la place qu'occupe la lecture dans votre vie aujourd'hui, comment est-ce que vous la qualifieriez ?
Il y a différentes formes de lecture et donc différentes formes d'attention. En effet, il y a la lecture d'articles scientifiques. Moi, j'étais très marquée par, et c'est d'ailleurs un des livres absolument phares de ma vie, mais dans Les mots et les choses. Michel Foucault, pour expliquer les différences des épistémées, c'est-à-dire des régimes de vérité, des régimes de savoir, fait cette réflexion qu'il est tout à fait possible pour nous aujourd'hui de lire un article, par exemple, de Buffon ou de n'importe quel autre naturaliste scientifique, on va dire, du XVIIIe siècle. Mais par contre, on serait bien en peine de lire un article de Nature ou de Science, et donc un article scientifique. Et je pense que c'est pareil pour les sciences sociales, c'est pas que le cas des sciences dites dures. Parce que le jargon, et donc la langue, est modifiée, et le jargon a pris une place telle, la langue s'est tellement spécialisée qu'on ne peut plus comprendre de quoi il s'agit. Et donc, y a différentes formes de lecture, il y a cette lecture un peu spécialisée. Et je pense qu'elle est plutôt un écran. Elle est peut-être nécessaire pour faire avancer certaines idées, mais je n'en suis même pas si sûre.
Mais vous la pratiquez quand même.
Mais justement, pas vraiment. Enfin, j'ai des collègues aussi et je connais beaucoup de grands scientifiques qui ne la pratiquent pas du tout. Enfin, quand on lit David Graeber, par exemple, qui est un anthropologue très reconnu, tout le monde peut lire ses livres. Il n'y a pas ce coup d'entrée, comme on dit, savant. Et donc il n'y a pas de jargon. Et je pense qu'au contraire,
le coup d'entrée au sens de combien ça coûtait, non pas le coût. Enfin, ça dépend. On pourrait aussi se prendre un petit coup.
C'est ça, plus. Voilà. C'est combien.
Et combien ça coûte.
On n'a pas besoin d'être particulièrement savant ou d'avoir une formation particulière pour pouvoir lire ça. Donc il y a ce type de lecture qui est un quotidien, lire les travaux des étudiants, lire avec cette oreille qui fait que dès qu'en effet on entend du jargon, on se dit ah, il y a quelque chose qui est en train de mourir là, de l'ordre de la pensée. Et donc aussi, enfin, comme on a une responsabilité de former des étudiants en tant qu'enseignants, de vraiment les mettre en garde et de
tout garder vivant.
Transmettre des façons d'écrire justement qui fassent sans le jargon. Et puis il y a la lecture comme pratique de vie et en effet ça prend une très très grande place et ça permet aussi d'habiter un temps qui est habiter ce temps-là de la lecture, ça peut devenir une forme de résistance par rapport au morcellement du quotidien. La maternité, la vie dans une ville, toutes ces temporalités-là assez brusquées, quoi. Donc.
Et est-ce qu'on peut essayer de dire en quoi, Shora Makarimi, parce que souvent, à ce micro et ailleurs, on peut entendre cette phrase-là, que habiter ce temps de la lecture, c'est précisément habiter un autre temps, mais si on essaye de dire plus précisément ça, si on essaye de dire pourquoi. Et par exemple, de le dire à des gens qui ne le sentent pas dans leur corps, qui ne font pas cette expérience-là parce qu'ils lisent moins ou qu'ils lisent pas ou que ça leur fait pas ça. Comment est-ce que vous expliqueriez en des termes très concrets pourquoi est-ce que lire pour vous, d'une part, c'est une pratique de vie, pour reprendre ce que vous venez de dire, et d'autre part, c'est une possibilité d'habiter un certain temps? Moi, je comprends, je vous reçois 5 sur 5, mais je pense que c'est intéressant de déplier ça.
Avec mon fils qui a 9 ans par exemple, je trouve ça beaucoup plus simple de lui lire à haute voix pour le convaincre que de lui expliquer pourquoi il est important de lire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui se pratique. C'est comme d'expliquer pourquoi est-ce que danser libère
autant danser ensemble
est fondamental. Autant mettre de la musique et danser, autant lire à voix haute. Et pourtant, oui, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de l'attention. C'est le type d'attention d'attention.
Que requiert la lecture.
Que requiert et que permet la lecture, couvre la lecture, parce que dans ces cas-là, on n'est plus dans des formes de distraction, on n'est plus dans le souci, on est porté par le rythme d'une phrase. Donc en fait, ça peut être des choses très ciselées,
Ça peut être la patience que demande, par exemple, Proust. Quand on commence à lire la phrase, si on veut absolument savoir comment elle se termine, on n'arrive plus à être un bon lecteur et on n'a plus de plaisir. Ça demande d'abandonner cette volonté de savoir absolument de quoi il s'agit et donc de se laisser aller. Quand on lit Natalia Ginzburg, que j'aime énormément, c'est au contraire quelque chose qui est très tout ce qui est très imperceptible et finalement elle dit tout sans dire rien exactement, et donc c'est le côté qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est anodin, la façon dont tout est un peu remis en cause et où ce sont des gestes, des objets, des visages qui vont dire des choses tellement tragique, tellement importante de vie et de mort et de résistance, mais qui sont charriées comme ça sur toute cette surface.
C'est presque à vous écouter finalement, c'est apprendre des qualités d'attention. C'est-à-dire que en fait, par la littérature, notamment par là, par exemple, l'expérience d'un style qui est très différent chez Ginzburg et chez Proust, on découvre une qualité d'attention. Éventuellement, qui peut être redéployé ailleurs dans la vie pour faire d'autres choses, mais il y a quelque chose qu'on découvre par le texte lui-même.
Oui, et c'est des façons d'être donc présent à soi, au texte, au monde dont parle la lecture. Par exemple, moi, j'apprécie énormément l'écriture de Kafka, de Borges, qui sont des écritures où il y a justement, mais aussi comme celle de Ginzburg, qui sont d'apparente simplicité, mais avec une puissance et une beauté qui fait qu'on a un peu des émotions à chaque phrase. Et un jour, j'ai découvert un écrivain iranien qui s'appelle Radal Abdollah et qui est arrivé en Hollande comme réfugié politique. Il savait pas parler le néerlandais. Il vient d'un groupe révolutionnaire de gauche. Il a fait 8 ans de prison. C'est un survivant des massacres de 88 durant lesquels ma mère a été tuée. Et en fait, il a été, il devait partir en URSS quand il a été libéré de prison. Et puis l'URSS est tombée et il s'est retrouvé aux Pays-Bas. Et comme il le dit, il a embrassé ses habits de lutte, il les a mis de côté, il a pris un stylo, il a commencé à écrire, il est devenu romancier, plus du tout politique, mais enfin, vraiment romancier. Et il a voulu écrire en néerlandais, et donc il connaissait pas. C'est une langue qu'il ne lisait pas, mais comme il explique, comme il a grandi avec un père aveugle à qui il décrivait tout. Moi, ça m'est arrivé une fois de faire une expérience d'une promenade avec une personne aveugle dans un parc, et c'était magnifique. En fait, on n'en a jamais fini d'épuiser, de décrire l'environnement. Et cette façon d'avoir à toujours tout décrire à son père qui était aveugle quand il était petit l'a aidé, dit-il, à arriver à trouver une langue qui est toute simple, et donc la beauté de son écriture ne réside pas absolument, contrairement à Borges ou à Kafka, dans le ciselage, la précision de sa langue, mais réside au contraire à l'espèce de surréalisme, à la poésie qui va surgir de plein de petites images dites dans une langue assez simple et mises bout à bout. Et donc là, on a pareil, quelque chose de complètement différent.
On va parler de votre livre « À vous, résistances affectives » juste après cette chanson emblématique du soutien au soulèvement iranien, s'appelle « Baraï » qui signifie « pour » en persan, pour danser dans la rue, pour ne plus avoir peur de s'embrasser, pour ma sœur, la tienne, les nôtres, pour le regret de ne pas avoir une vie ordinaire. C'est un titre qui est devenu un hymne à la liberté signé par le chanteur iranien Shervin et repris partout dans le monde depuis. Ici, elle est remixée.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک سوال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختهای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای
زندانی برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
L'une des conséquences majeures des politiques et pédagogies de cruauté est qu'elle isole les individus. Elle rompt les filiations, empêche la solidarité, rend suspect tout mouvement d'empathie ou de dissidence. Elle transforme les affects en risques. La capacité à éprouver devient une ressource politique menaçante. Alors l'indifférence et la méfiance sont autant de replis stratégiques dans des formes d'existence qui nous sont permises et auxquelles nous avons été dressés. C'est pourquoi l'enjeu central est celui de désapprendre, en racontant, en reliant ou en ressentant. Cette contre-pédagogie ne cherche pas à se tourner vers le beau et le positif en niant la cruauté, mais à empêcher que celle-ci devienne la seule grammaire possible dans le monde social. C'est un extrait de votre livre « Résistance affective, Chora Makaremi ». J'aurais pu en choisir plein d'autres, paru aux éditions La Découverte, mais celui-ci, il me semble, rassemble de nombreux enjeux de votre texte. Je voulais juste donner les titres du sommaire de ce livre. « Cheveux, feu, système nerveux, contre-archive, graines, cordes et voix ». Et je pense que c'est très important d'entendre ce découpage et les titres que vous leur donnez pour essayer de définir la sorte de texte que vous fabriquez, Chora Makaremi. Je rappelle donc, vous êtes voilà, anthropologue au CNRS, et c'est comme ça que s'appellent vos chapitres. Qu'est-ce que ça raconte de l'entreprise de ce livre ?
C'est une façon de penser à partir de la chair, vraiment à partir de la matière, et de ne pas... Si le livre, si ce texte essaye d'explorer tout ce qui s'ouvre en termes de pensée et d'action quand on refuse les binarités, et notamment la binarité entre raison et émotion, entre corps et esprit. Donc dans on ne peut pas être dans une perspective non binaire et pousser ça de façon binaire, c'est-à-dire en revenant, en le démontrant, comme si nous on n'avait pas de corps, nous qui écrivions, et que celles et ceux qui lisent n'en avaient pas non plus. Donc il est question d'avoir une certaine cohérence entre ce qu'on veut amener, ce qu'on a à dire et la façon dont on le fait. Et donc c'est pour ça que c'est à partir de matière. Moi je le voyais comme une espèce de boîte où il y a ou une espèce de je sais pas d'exposition d'artiste où il y a un bout de cheveux, un bout de feuille et puis
une graine
de lapin et une graine et tout ça fait sens ensemble. Donc c'est en effet.
C'est un texte qui a une géographie très large. Vous pouvez aussi bien traiter du Chili et des disparitions forcées et des mères qui réclament pendant des années le corps de leurs disparus. Vous pouvez aussi bien parler de Gaza. Vous pouvez aussi bien parler de l'Iran, évidemment, mais de la mort de deux jeunes adolescents à Clichy-sous-Bois. Il y a une géographie qui est très très large et il faut attendre peut-être, oui, je sais pas, 180 ou 200 pages pour revenir à une géographie qui est très, très, très intime dans votre corps, non pas d'enfant, mais de bébé, puisque lorsque votre mère est arrêtée et tuée en Iran, vous êtes un tout petit, petit, petit enfant. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ce choix de ne pas commencer par l'exposition d'une très grande intimité à laquelle on arrive plus tard et qui éclaire tout ce qu'on a traversé avant?
Parce que justement, je pensais qu'il fallait être outillé pour en arriver là. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est parce que d'une part, ce livre est né, il a été écrit très vite, et c'est l'expansion assez rapide et assez libre aussi. C'est pour ça que c'est un essai. Je veux dire, je ne prétends pas faire une œuvre scientifique, mais c'est un livre qui a été écrit assez rapidement en développant une pensée qui était beaucoup plus resserrée, un raisonnement qui était sur un temps beaucoup plus court, parce que c'est une conférence que j'avais donnée à la Grasse l'été dernier, donc à l'été 2024. Et dans ce parcours que j'avais fait, je partais des soulèvements pour ensuite parler de leur de la défaite. De la question de la défaite en politique et de ce qui pouvait y avoir qui se transmettait tout de même malgré la défaite, et de comment survivre aux politiques de la cruauté qui se mettent en place pour essayer d'éteindre tout ce que ces soulèvements réveillent en termes de potentiel de transformation du monde politique et social. Et donc, dans ce parcours-là, finalement, mon histoire personnelle venait plutôt à la fin, parce que plutôt du côté de la répression et des politiques de la cruauté que des soulèvements, puisque la ferveur révolutionnaire, la joie révolutionnaire était celle de la génération de mes parents, justement, et je cite par exemple une lettre de ma tante, qui fait totalement écho aux paroles des jeunes révolutionnaires du soulèvement Femmes, Vie, Liberté. Mais donc, c'était pour ça, à la base. Je pense qu'il y avait une cohérence. Mais aussi, j'ai gardé cette structure-là parce que j'ai l'impression qu'il faut être outillé pour arriver, puisque justement, on n'est pas dans la binarité entre les émotions et la raison, et que je soutiens que les émotions en elles-mêmes et ce qu'on ressent a une puissance nous rend plus intelligents, nous permet de voir des choses, produit des surcroîts de lucidité, produit aussi des formes d'aveuglement, mais produit aussi des surcroîts de lucidité. Et donc si cette intelligence des émotions, pour s'y préparer, il fallait peut-être faire ce parcours-là, être outillé au cours du livre, voir de quoi il s'agissait, comment est-ce que tous ces enjeux intimes sont aussi politiques. Et donc arriver par le politique à saisir cela, donc tant et si bien que quand je parle de mon histoire, on a fait le chemin ensemble avec les lecteurs jusque là, et donc on arrive à voir les choses à peu près sous le même angle, et on se rabat pas sur des distinctions entre ce qui serait du domaine du psychologique, du personnel, de l'affectif, et au contraire, ce qui est du domaine du politique, de l'historique et du collectif, tout ça est totalement lié, et c'est au point de jonction, au point d'indémaillable des deux que sévit le pouvoir. En fait, c'est par là qu'il nous prend, et donc c'est ça qu'il faut exposer pour pouvoir à la fois le débusquer dans sa puissance et pouvoir trouver comment lui répondre.
On va entendre deux témoignages que vous rapportez en italique, Chora Macaremi, des témoignages de co-détenus de votre mère, recueillis dans un moment de recherche où vous cherchez à savoir ce qui s'est passé. Et ces deux façons de parler des attitudes de votre mère et de votre grand-mère sont aussi des portes ouvertes pour réfléchir à ce que vous liez entre la parenté et le soulèvement, entre le genre femme et le soulèvement, peut-être entre la position maternelle et le soulèvement. Enfin voilà, ces témoignages-là nous permettent de penser politiquement plein d'autres choses, on y viendra.
Il y avait cette mère qui s'occupait elle aussi de sa petite fille pendant que sa fille était en prison. Je l'ai entendu dire à sa fille au parloir « Je ne m'occupe pas de ton enfant. Elle reste dans un coin et elle mange si elle réclame. Sinon, ça n'est pas mon affaire. Si tu te soucies vraiment d'elle, alors tu n'as qu'à avouer et te repentir tout simplement pour qu'il te libère. » Et la prisonnière, en entendant cela, pleurait comme la pluie du printemps. J'ai demandé à cette mère « Mais... comment as-tu le cœur de parler comme ça à ta propre fille ?» Elle m'a répondu qu'elle lui mentait. « Bien sûr que je prends soin de l'enfant. Mais je dis cela pour que ma fille avoue, pour qu'elle abandonne ses idées et accepte de collaborer, afin de pouvoir être libérée. Je ne peux plus supporter cette situation. Je n'en ai pas la force. Tout le monde n'est pas comme toi. » Finalement, sa fille ne s'est pas repentie. Mais tu sais, il y avait cette autre prisonnière qui s'était repentie. Et elle avait été libérée. Eh bien, elle aussi, ils l'ont rappelée en prison en 1988. Elle leur a dit « Mais vous m'avez libérée ?» En vain. Ils l'ont tout de même appelée et ils l'ont tuée elle aussi. Comme celle qui ne s'était pas repentie. Ils les ont toutes tuées. Un jour, dans la cour de la prison de Adelabad, je me promenais avec Fatemé. Nous parlions. Elle se plaignait de son arthrose, de douleurs au dos, surtout au cou. Je me souviens lui avoir dit « Pourquoi ne te coupes-tu pas les cheveux ?» Elle m'a répondu « Beaucoup me le conseillent. » Mais à l'époque où j'allaitais ma fille, chaque fois que je la prenais dans mes bras, elle jouait avec mes cheveux. C'est pour cela que je ne les ai jamais coupés. Je veux qu'après ma libération, quand je la serrerai de nouveau dans mes bras, elle puisse encore prendre mes cheveux dans ses mains.
Un encordage de voix de femmes et de positions de femmes dans cette situation particulière autour de l'emprisonnement et de l'assassinat de votre mère, Shohra Makarimi, qui nous permet de penser plusieurs choses, mais peut-être commencer par parler de la place, non pas que vous donnez, mais que vous constatez être celle des femmes, et je dis vraiment le mot femme en tant que genre, dans les différents soulèvements et résistances que vous regardez dans votre livre. Elles ont une place centrale.
Oui, 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 elles ont une place centrale. En fait, de fait, je m'intéresse, on s'éloigne un petit peu des témoignages qui viennent d'être lus, mais le point de départ du livre, ce sont les soulèvements, la période de soulèvements contemporains qu'on a vécu dans les dernières années. Ça a commencé un tout petit peu avant le Covid, notamment l'année 2019, qui a été une année incroyable, traversée de soulèvements à travers le monde, la révolution, ce qui s'appelait la révolution libanaise, au soulèvement irakien, à la révolution soudanaise en décembre 2018.
Et tu
au Irak algérien, et puis il y a eu le Bélarus, et puis il y a eu un premier soulèvement en Iran en 2019. Enfin bon, et tout ça a continué. Il y a eu le Chili également, et tout ça a continué sur quelques années. On a basculé, particulièrement après le 7 octobre 2023, dans un monde où les peuples et la voix des femmes et la voix des peuples a déserté la scène. Il ne reste plus que des hommes guerriers et cette masculinité guerrière, nationaliste et meurtrière et cruelle. Mais c'est vrai qu'il est important de ne pas perdre de vue ce qui a été entendu. À ce moment-là, ce qui s'est dit, ce désir de changement radical et puissant, parce que les observateurs de tous ces soulèvements, en fait, partagent en commun ce constat que ce sont des soulèvements inédits. Par exemple, en Irak, on fait preuve, on en appelle à un nationalisme, à une cohérence nationale, là où il y avait plutôt du confessionnalisme. En Iran, c'est un soulèvement féministe. Enfin, il y a plusieurs. Au Chili, on est dans un discours qui lie ensemble une demande d'égalité économique et une façon de ressaisir l'héritage de la résistance contre Pinochet. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent à travers le monde. Si on écoute ces bruissements-là. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les visages de ces révoltes-là sont des visages de femmes, qu'on pense à Ala Salah, cette Soudanaise qui chantait sur une... juchée sur une voiture des chants révolutionnaires, ou bien cette femme, cette jeune insurgée libanaise qui donne un coup de pied circulaire à un milicien dans la rue. Bien sûr, les figures du soulèvement Femme, Vie, Liberté. Mais un petit peu partout, ça a été le cas. Au Bélarus, par exemple, c'était une femme qui était la principale opposante à Loukachenko. Et donc, au Chili, un violeur sur ton chemin, la performance de la Stésis, qui est devenue en fait la chanson de la révolution et qui a fait rentrer les revendications de genre et le soulèvement contre l'ordre patriarcal. Dans ce qui au départ était un soulèvement plutôt économique. Donc tout ça pour dire que ce ne sont pas uniquement des femmes qui symbolisent la révolte ou qui en deviennent le visage.
Mais elles la font.
Oui, elles la font. Et ce sont des pratiques féministes qui outillent ces révoltes. Mmh. Et donc la question est très vite devenue: qu'est-ce que ces soulèvements doivent au féminisme comme pratique de lutte, comme grammaire de lutte? Et c'est vrai que si on prend la performance de la Stésis, un violeur sur ton chemin au Chili, ou encore les femmes de Shaheen Bagh, qui sont les mères musulmanes, qui ont occupé un tronçon d'autoroute à la sortie de Delhi et qui ont, à travers cette occupation-là, ouvert une scène politique qui était le plus grand mouvement de résistance contre l'Inde fasciste, dans l'Inde fasciste de Modi. De résister, et qui était un mouvement dont le slogan était « Il faut sauver la Constitution ». Et donc on voit comment est-ce que des femmes arrivent à donner, à trouver la grammaire de la révolte en offrant un langage qui ensuite est ressaisi par tout le monde. Et ce qui est assez étonnant, c'est si on revient aux mères musulmanes de Shaheen Bagh en Inde, qui arrivent avec ce slogan « Sauvons la Constitution », c'est qu'on a une minorité, donc les femmes minorisées, les femmes musulmanes dans l'Inde de Hindutva et de Modi, donc doublement minorisées, doublement invisibles dans l'espace public, qui en se rendant visibles dans cet espace public où elles n'ont pas leur place, deviennent porte-parole de toute la communauté politique. Et donc il y a une dimension universelle, mais au-delà de la dimension universelle, elles nous permettent de repenser autrement la question de ce que c'est que l'universel. Et donc, ce que les femmes... Il y a cette dimension-là, il y en a encore d'autres. Ce que les femmes donnent à la révolte durant ces années, c'est une grammaire de lutte, c'est une façon de concevoir aussi les frontières du politique autrement. C'est-à-dire qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui ne l'est plus. Faire une cantine et faire à manger... à Khartoum, au Soudan, dans ce qui était les cantines populaires révolutionnaires, est-ce que c'est une façon de faire la révolution? Eh bien oui, ça le devient.
Et réclamer inlassablement le corps d'un père, d'un frère, d'un amoureux, d'un ami disparu est aussi une pratique politique. Il y a quelque chose dans ce que vous dites qui n'essentialise pas la position politique de ces femmes, mais qui essaye de voir vraiment, de les voir comme une pratique. Qu'est-ce qu'elles font, en fait? D'où ça part? Comment ça fonctionne? Dans ce que vous venez de dire, je retiens l'idée de visibiliser sa présence, qui est quelque chose dont vous parlez beaucoup dans Résistance affective, l'idée que un corps se voit, des corps attendent, des corps se réunissent. Il y a vraiment quelque chose que vous repérez comme une grammaire de lutte, dans un point commun, d'une certaine manière.
Oui, absolument. Et quand on parle de visibiliser sa présence, ce n'est pas justement demander à avoir une place, à être pris en compte dans cet espace public qui est défini par l'autre. Mais c'est vraiment trouver un langage qui permette de redéfinir les frontières de cet espace public même. Donc on va chercher à faire basculer l'ordre pour y trouver sa place. Et on le fait basculer en se montrant visible et en se rendant présente. Et c'est vrai que la présence des femmes, que ce soit à Bagdad, que ce soit au Liban, à Beyrouth et dans les autres villes, et à Téhéran et à Valparaiso et à Santiago du Chili, ou encore à Delhi en Inde, ce sont des formes de présence qui viennent redéfinir l'espace public donner à travers une chanson, à travers un geste, comme celui de se couper les cheveux ou de brûler son voile, à travers, encore une fois, des temporalités de lutte. La cantine, ce n'est pas rien, en fait. C'est pas juste faire à manger. C'est une façon d'être là, c'est une façon de lier domesticité et espace public. Il y a des quantités de choses qui se négocient à travers ça. Et donc, ces formes de présence-là ont aussi creuser des conduits de résistance et des formes de relations, des réseaux, des connexions qui permettent au soulèvement de persister à bas bruit une fois qu'ils sont réprimés de façon parfois très cruelle et devenir un petit peu élargir ce système nerveux de la résistance en poussant un petit peu plus loin les conduits sur lesquels, en fait, les résistances passées s'étaient déjà appuyées pour exister, parce que aucun soulèvement ne naît de rien. On est toujours appuyé sur des réseaux déjà constitués, des pratiques déjà constituées, des répertoires d'action, etc. Ce sont souvent les femmes aussi qui font ces travaux d'archivage, de maintien du quotidien, vraiment ce travail de tenir ensemble, que ce soit dans la Syrie de la guerre civile et sous les Assad, que ce soit à Gaza aujourd'hui. C'est aussi un travail de reproduction et de maintien des liens du minimum quotidien qui permet justement à ce système nerveux de la résistance de s'enraciner, en fait, dans les communautés.
Je reprends justement cette idée du système nerveux, de la racine, du rhizome ou de tout le jeu de cordes aussi que vous décrivez très bien dans votre livre, pour dire qu'il y a un avant la mobilisation qui procède de ces cordes et de ces liens et qui emmène vers la mobilisation, et l'après-mobilisation qui poursuit dans le fait de lancer des nouvelles cordes, quoi. Et je pense que c'est très important de se rendre compte que ces images-là, ce sont pas juste des images sympas pour se dire, ce sont des images qui sont performatives, qui permettent de non seulement penser des luttes qui ont lieu, mais aussi de les rendre très actives. Et donc, je reviens au témoignage qu'on vient de lire, Shora Makarimi, où vous constatez, bien après coup, bien sûr, hein, que vous étiez encordé, c'est-à-dire que petit bébé que vous étiez lorsque votre mère, pour des raisons politiques, était emprisonnée puis fut assassinée, que votre grand-mère allait au parloir dire « mais je m'en occupe pas de ton bébé, dépêche-toi, dédie-toi politiquement, rentre à la maison », vous étiez prise dans un jeu de cordes dont on peut dire que ce livre-là est une forme de continuation. Peut-être pour que vous nous parliez de la place que vous faites au lien, à la parenté, vous utilisez aussi un mot pour aller bien au-delà de la question de la famille, mais je crois que ça s'appelle vous parlez d'une mutualité d'être, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que c'est à la fois le moteur de l'action politique, mais aussi sa continuation? J'espère que je suis claire.
Oui, tout à fait. Le premier extrait que vous avez lu, c'est donc un récit que me fait ma grand-mère. C'est un témoignage de ma grand-mère où elle ne parle pas d'elle-même, mais elle parle d'une autre femme. Donc en fait, c'est un témoignage un peu compliqué où elle dit, avant même de me parler de ma mère, donc la première chose qu'elle me dit, c'est que voilà, quand je t'emmenais, quand on allait en visite, donc une fois par semaine, quand tout se passait bien, on avait des visites au parloir, il y avait cette autre mère. Cette autre mère parlait à sa fille, et cette autre mère qui était une grand-mère aussi et qui était en charge de l'enfant de sa fille emprisonnée tout comme ma grand-mère était en charge de moi, cette autre mère disait à sa fille, je ne m'occupe pas de ton enfant.
Ah, on m'entend, je pensais que c'était votre grand-mère, j'ai lu trop vite. Okay.
C'est, je ne m'occupe pas de ton enfant, donc, et elle disait à ma grand-mère, tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde n'a pas ta force à toi. Parce que ma grand-mère lui disait, mais pourquoi tu lui dis ça? C'est absolument atroce. Et, elle disait, et justement, ma grand-mère, elle dit, voilà, en entendant sa mère dire qu'elle ne s'occupait pas de son enfant, cette autre prisonnière pleurait comme la pluie du printemps, donc voilà. Et donc, je me suis demandé, et ma grand-mère donc dit dans ce récit, cette autre mère disait ça, mentait à sa fille, pour que sa fille avoue et soit libérée. Finalement, elle n'a pas avoué. Mais de toute façon, même celles qui avaient avoué ont été rappelées en prison et sont mortes, et les ont tous tuées. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Elle est en train de, à mon sens, elle est en train de me dire plusieurs choses. Elle est en train de me dire que ce n'était pas la faute de ma mère et qu'il n'était pas en son pouvoir de toute façon changer sa situation. C'est-à-dire que il y a ce travail en profondeur qui a été fait et qui est cette pédagogie de la cruauté dont parle Rita Segato, ce que vous lisiez tout à l'heure, la contre-pédagogie et la pédagogie de la cruauté. Cette pédagogie de la cruauté qui a consisté en Iran, à travers ces mises en scène, à faire croire aux familles et aux prisonnières elles-mêmes, souvent, qu'elles étaient co-responsables de leur situation, qu'elles étaient co-responsables de la violence qui s'abattait sur elles, puisque si on les torturait, c'est parce qu'elles étaient têtues, si on les torturait, c'est parce qu'elles refusaient de collaborer, et que c'était bien leur faute, et que elles étaient responsables du degré de violence politique qui s'abattait sur le pays en son ensemble, parce que si elle n'avait pas été aussi radicalement opposée, eh bien, on ne serait pas obligé d'emprisonner et de torturer des gens. Voilà. Donc, arriver à faire croire à toute la société, en passant par les familles, que les prisonniers politiques sont co-responsables de leur situation et que l'entêtement et que la position un peu de radicalité, d'opposition radicale au projet de la République islamique est en soi une forme de violence, et donc de retourner les choses tant et si bien que dans les années 2000, nous avons les réformistes pour qui, en fait, la collaboration et la non-remise en cause de l'État, c'est du pacifisme. Mais bon, on n'est pas très loin de ce qu'on dit avec les écologistes aujourd'hui. Et on n'est pas loin aussi de ce qu'on dit avec la flottille à Gaza, en disant, de toute façon, s'il leur arrive malheur à ces bateaux qui sont sous la menace des drones israéliens à laquelle on parle...
Et qui sont engagés dans une lutte citoyenne pour défaire le blocus illégal de l'aide humanitaire à Gaza.
C'est ça, qui sont ces bateaux qui amènent une aide humanitaire, qui sont légaux, qui sont pacifistes. Ces bateaux humanitaires, s'il leur arrive malheur, il y a eu 8 explosions, 8 attaques de drones la nuit dernière, et si demain il y a une attaque qui cible des gens et qui fait des morts, eh bien c'est parce qu'ils se sont entêtés. C'est parce qu'ils sont bien allés le chercher. Et donc cette idée-là, c'est une pédagogie, c'est ça la pédagogie de la cruauté. Et donc ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Elle me dit d'une part que de toute façon ils les ont tous tués. D'une part, ce n'est pas eux qui décidaient. Donc elle dit qu'elle a été imperméable, elle, à cette propagande. Et que ça n'a pas eu de prise sur elle. Et donc, moi, il m'a semblé qu'à la fois elle me racontait ce que c'était que d'être mère de prisonnière. Et donc, dans quoi est-ce qu'on avait été embarqués toutes les trois? Ma mère, ma grand-mère et moi. Et en même temps, avant même de pouvoir me dire quoi que ce soit, parce que c'est la première fois qu'elle m'a parlé de ma mère, c'est la première chose qu'elle m'a dite. Avant de me dire quoi que ce soit, elle me donne des espèces de coordonnées pour dire, pour pouvoir dire quoi que ce soit, pour pouvoir raconter quoi que ce soit sur la prison et ta mère, il faut que tu comprennes d'abord bien ceci. Et c'est une façon aussi de placer sa loyauté. Et cette question de loyauté, je pense, est très importante. Moi également, en tant que fille d'une femme qui, dans un mariage très heureux avec un homme qu'elle aimait, ayant deux enfants, une vie réussie, a décidé de lutter jusqu'au bout et de payer le prix de son engagement et de faire tout ce qu'elle pouvait pour s'opposer au projet de la République islamique, y compris mettre en jeu son corps et sa vie. Et donc, en tant que fille d'une telle parente, bien sûr que cette question de la loyauté, en tant qu'enjeu politique, je la comprends. Et je pense qu'elle m'a été transmise par ma grand-mère, mais elle m'a été transmise par ce récit.
Je voudrais qu'on écoute la voix de Céline, auditrice du Book Club. Elle vous a lu et elle vous adresse une question.
Bonjour le Book Club. Bonjour Shora Makaremi.
J'ai lu Résistance affective et je tenais vraiment à vous remercier, Shora Makarami, pour votre livre, puisqu'il m'a éclairée et m'a permis de relire notre actualité au regard de votre pensée, puisque depuis quelque temps déjà s'organisent des mouvements de résistance face à ce que vous appelez des politiques de la cruauté. Donc avec votre livre, j'ai compris que c'est comme si les populations préparaient déjà les moyens de leur résistance et n'attendaient qu'un moment, qu'une étincelle. C'est ce qui m'a le plus plu dans votre ouvrage, finalement, c'est la manière dont vous analysez les soulèvements, la force du peuple au regard des émotions. Je voulais donc vous demander, dans un monde saturé de violences spectaculaires et de discours sur la résilience, comment préserver la puissance des résistances affectives sans qu'elles soient récupérées, esthétisées ou instrumentalisées par les mêmes systèmes de pouvoir qu'elles contestent. Merci pour votre réponse.
Merci Céline pour cette question si précise et pour cette lecture. C'est très intéressant, Shora Makarami, quand on parle de tous ces gestes-là, de se demander comment est-ce qu'ils ne deviennent pas un spectacle dans le spectacle généralisé et une esthétisation et une récupération.
Oui, absolument, et peut-être que d'essayer de clarifier ce que c'est que la résistance affective, ça permet de commencer à répondre à ça. Je parlais de l'attention tout à l'heure, la question de l'attention, de la texture de l'attention, pas uniquement l'économie de l'attention, mais qu'est-ce que faire attention. Et donc je peux peut-être donner un exemple de ce que c'est que la résistance affective et comment est-ce que moi-même qui vous parle aujourd'hui derrière ce micro, par exemple, je suis en résistance affective par rapport à ce qui se passe. Bien entendu, et d'abord en Iran, mais aussi à Gaza. Il y a une flottille dont on parlait tout à l'heure, de bateaux qui sont engagés pour essayer de briser le blocus, le siège de Gaza. Et dans cet engagement qui est citoyen, qui est purement citoyen, qui est transnational, qui est la réponse qui a été trouvée comme ça par les peuples, là où il y a absence de gouvernement, d'action des gouvernements, dans ce mouvement-là. En fait, on voit bien comment il y a un essai de réponse à des politiques de la cruauté qui partent par, et c'est ce par quoi vous avez commencé cette émission, qui partent par des corps qui se mettent en jeu pour répondre à ce qui est fait à d'autres corps. Et donc, nous avons écrit une tribune pour soutenir cette action-là, pour appeler chacun et chacune à prendre la mesure de ce que veut dire cette action, parce que c'est devenu, on parlait de grammaire de lutte, c'est devenu la grammaire de lutte d'une société civile transnationale pour dire nous ne voulons pas rester silencieux. Et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que, alors bien sûr qu'il n'y a pas que Gaza dans le monde, bien sûr qu'il y a beaucoup, et on parlait du Soudan tout à l'heure, bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres guerres qui sont beaucoup plus meurtrières parfois, mais ce qui est spécial à Gaza, c'est que depuis 2 ans, on nous montre un spectacle de la cruauté et de corps fragmentés, et en même temps, on nous demande de ne pas nommer les choses. Et donc, en fait, c'est
qui ont
alors. Eh bien voilà, c'est ça le problème. C'est un on très général. Il y a les gouvernements et en tant que citoyens de société démocratique occidentale, nous sommes partie prenante en fait de systèmes politiques qui arment l'État d'Israël et qui quelque part, par leur silence ou leur absence d'action, se mettent du côté des génocidaires. C'est un on extrêmement général, mais il y a aussi un on du discours médiatique. Cette tribune qui souhaitait dire en fait prenons la mesure de la scène politique qui est ouverte par ces citoyens qui mettent leur corps en jeu, et c'est vraiment très important pour essayer de défaire ce silence là et pour répondre aux populations massacrées de Gaza en mettant leur propre vulnérabilité. Donc en fait c'est les traiter comme des gens qui se mettent en spectacle, ou les traiter de façon très légère, se moquer de leur amateurisme, c'est une façon aussi de relayer le spectacle de la cruauté en disant on ne peut jamais rien faire. Donc c'est vraiment relayer cette impuissance et désactivation qui est un des objectifs de la cruauté. Quand on revient à cette pédagogie de la cruauté, son objectif, produire, ce sont des techniques de pouvoir, mais produire ce silence, c'est nous embarquer dans un consentement qui est une forme de gouvernement, c'est de nous gouverner toutes et tous à travers, en nous faisant devenir des êtres impuissants, des êtres sidérés, des êtres qui savent plus comment réagir. Et donc, dans cette impuissance-là, on est désactivé face à Gaza, mais on est désactivé partout et ailleurs.
Je pense que c'est important de dire que dans votre texte, les résistances affectives, le réarmement passe par une reconnaissance de la puissance de ces émotions dont vous dites qu'elles sont désactivées. C'est-à-dire que le deuil, la colère, le chagrin deviennent des moteurs et non pas des choses à taire. Je dis juste au passage que la tribune dont vous parlez sera publiée et l'est peut-être déjà sur le site de Télérama pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient la lire.
Oui, justement. Alors, et c'est par rapport à la question de la résistance affective. Donc, il y a cette flottille en elle-même est une forme de résistance affective, une réponse par les corps à la sidération. Cette tribune que nous avons écrite a été signée par des dizaines de personnes, dont Judith Butler, Angela Davis, Virginie Despentes, Alice Diop, Annie Ernaux et bien d'autres, Elias Sambar, Gisèle Vienne, bien sûr. Et nous l'avons soumise à la presse. Le journal Le Monde l'a refusé, le journal Libération l'a refusé. C'était hier, nous sommes aujourd'hui mercredi, et ce matin, à la radio, nous avons une humoriste, Sophia Aram, qui vient mettre en œuvre les mêmes moqueries face à la flottille que le texte contesté. Et donc, là où moi je suis en résistance affective, c'est d'arriver à trouver le bon lieu pour parler aujourd'hui, pour vous parler, alors que je vois ça se mettre en place. Donc quand vous disiez c'est qui on, eh bien c'est un on collectif, c'est un tissu. Et comment découdre et recoudre dans ce tissu, comment changer de régime d'affection, comment ouvrir cette scène politique et inviter toutes celles et ceux qui le peuvent à se désolidariser de la moquerie, à se désolidariser d'une forme de neutralité qui est en fait un conducteur de la cruauté, et comment parler. On ne peut pas éructer, mais on est très en colère. Mais l'éructation, c'est dans le camp des humoristes qui se gaussent, mais pas dans le nôtre. Donc comment trouver la bonne voie? Comment ne pas hurler? Comment ne pas crier? Comment dire simplement et posément que ce système-là, qui ne donne pas voix à une tribune qui dénonce la cruauté, mais qui donne voix à ceux qui moquent les citoyens qui sont sous les drones israéliens, eh bien, comment est-ce qu'on peut défaire ça tous ensemble et tout ensemble?
Bon, j'imagine que ça va de toute façon ouvrir le débat. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et ici, dans le Book Club, on cherche de la musique dans les livres et on en a trouvé, Shora Makaremi, dans votre livre Résistance affective, c'est la mélodie d'une berceuse. On se quitte donc avec un extrait de votre texte. C'était l'été. J'étais dans un village dans le sud de la France. Il faisait chaud, le ciel était sans nuages, les insectes bourdonnaient, une rivière scintillait. À ma gauche, dans la pièce à laquelle je tournais le dos, la voix de ma grand-mère chantait d'un ton monocorde. Ce n'étaient pas les chansons populaires aux mélodies presque méconnaissables qu'elles entonnaient malicieusement de sa voix rauque, assise sur le canapé pour amuser ses petits-enfants durant les dernières années de sa vie. C'étaient les berceuses de mon enfance. Ma grand-mère passait alors de nombreuses heures à murmurer ses berceuses. Elle les chantait pour se calmer. Elle les chantait pour ses filles, dont elle était séparée, pour adoucir leur supplice et le sien. Durant ce temps, je n'existais pas. J'étais là, à côté, mais ce n'était pas pour moi qu'elles chantaient. Leur rythme était particulier, centrifuge et incantatoire. La répétition n'était pas une répétition, mais un balancement chaud, plein de plis et de replis. Je la revoyais assise avec son tricot, le corps rond et lourd comme une pierre. Elle se berçait. Elle berçait ses filles. Sa voix de gorge était le dernier rempart contre la folie. Vous voulez dire un truc pour terminer, Macarémy?
Non, je voulais rappeler une chose, c'est que justement ma grand-mère n'a jamais eu accès au monde des livres, puisque elle ne lisait pas, n'écrivait pas comme beaucoup de femmes de sa génération, et que une part de mon travail, j'ai l'impression, est d'être traductrice de son intelligence, de sa sagesse et de tout son savoir en mots écrits.
Résistance affective, c'est le titre de votre livre paru aux éditions La Découverte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Grégory Wallon était au son, Vivien Demeyer à la réalisation. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et à Jeanne Aléos en particulier.